everyone. We will go ahead and begin, although we're missing one of the commissioners because we need to stay on time. We have hearings every hour from now until 6:30 tonight. So if we get behind, we are going to be in great difficulty. There is a delegation from the state that planned to be here, but they missed their airplane. So someone is supposed to be coming from the embassy here to present the position of the state. We also received yesterday a document from the government about the measures that have been taken. So I hope that we will have a representative here who can describe then what the state has been doing. Our first hearing today is with respect to the precautionary measures 340.10 concerning women and children in the camps for those who were forcibly displaced in Haiti. We have a number of representatives here, both from Haiti and from human rights clinics, and so we will be hearing from them. If the state does not appear, we can give you a longer period of time to speak. If the state does come, then we will stop so that we can hear representatives of the state as well. I do have time cards here that I will place that will indicate how much time you have left. And please, when you see 1 minute, take that seriously. Je voudrais remercier les femmes qui sont venues de Haïti pour cette audience. Nous sommes ici sur les mesures provisoires qui étaient instituées par la commission 340-10. Et nous avons la possibilité d'avoir un représentant de l'État qui vient de l'ambassade ici. Nos autres représentants avaient des problèmes d'avion ce matin. Ils ne sont pas arrivés d'Haïti. Nous avons 1 heure totale pour cette audience. S'il n'y a pas de représentant de l'État, vous pouvez prendre toute l'heure pour parler. S'il y a quelqu'un qui arrive de l'État, on va diviser le temps que nous avons. C'est à vous.
Good morning, Honorable Commissioners. My name is Lisa Davis. I'm the Human Rights Advocacy Director for MADRE and Professor for the International Women's Human Rights Clinic at CUNY School of Law. Petitioners in this case include attorneys from MADRE, CUNY Law School, Women's Link Worldwide, the Institute for Justice and Democracy of Haiti, the Bureau of International Lawyers, the Center for Constitutional Rights, and the law firm Morrison & Forrester, and advocates from grassroots Haitian organizations, Kofavive, Fabulek, and Kofavive. Here with us today is Maya Villard-Apollon of Kofavive, who will discuss general conditions faced by women and girls living in the 22 main displacement camps. Next, we will hear from Amit Delva of Kofavive, who will discuss more in detail issues women face. Then I will talk about the obstacles to implementing the Commission's recommendations. Lastly, Catherine Romero of Women's Link will discuss our suggested recommendations. Also with us is Regina Nelson, volunteer with MADRE, who will be providing translation. Josie Phillison of Kofavive and Annie Gell of the Bureau. We are here today to present the immediate priorities for displaced women and girls and obstacles to implementation of the Commission's decision for precautionary measures issued on December 22nd. We regret to report that since the Commission's decision, there has been minimal progress made towards compliance, which has resulted in a relentless epidemic of sexual violence and continued impunity. The 2010 recommendations, combined with the long-term recommendations outlined in the Commission's 2009 report on Haiti, provide a comprehensive roadmap for addressing and preventing gender-based violence and related discrimination against women and girls in Haiti. This commission due to its expertise in international women's human rights law, is in a unique position to assist the incoming Haitian government, UN agencies, and other civil society actors in implementing these recommendations.
To observe the current situation of women and children.
situation.
Yes.
Thank you.
Onora, ma'am, commissione di amiche d'uomo.
The honorable members of the Inter-American Commission on Human Rights,
le président gouvernement haïtien,
and representative of the Haitian government, my name is Irani Kilva,
secrétaire exécutive et fondatrice pour Favive.
I am the executive director of Favive.
En même temps, une femme qui était victime de violence sexuelle.
I am also a victim of rape.
Moi, je voulais adresser un remerciement particulier à tout membre de la commission et tout organisateur de session.
I would like to say a special thank you to all of the members of the commission and all who have organized this session.
Intervention non basée sur ce qui a rapport à la sécurité dans le pays et le système de la justice dans le pays d'Haïti.
My testimony is on security in the camps and the justice system in Haiti.
Kouvaviv
has borne witness to the following.
Pas de sécurité.
There is no security.
Ça fait plus de gros problèmes de proximité dans disposition toilette.
In addition, there is a huge problem with the layout for toilets.
Qui contribue à violence contre femmes,
which contributes to the violence against women.
Par exemple, dans le Champ de Mars.
For example, in the camp in Champ de Mars,
toilettes sont sous la rue et devant tout le monde.
The toilets are located on a main road in public view.
Majorité kayo, pas de assez douche pour femmes actives urbaines.
The majority of the camps do not have sufficient showering facilities for the women and girls to shower.
This alone you may do.
As a result, the women and the girls shower outside.
Ça c'est violation droit à dignité sous conforme.
This is a violation of our rights and dignity on the body of a woman.
Pas de patrouille policier de façon permanente dans presque tout camp.
There are no permanent and consistent police patrols in the majority of the camps.
En 2010, après tremblement de terre, pour faire des documentaires, personnellement, 459 cas de viol.
In 2010, since the earthquake, Koufavis has documented 459 cases of rape.
En 2011,
in 2000,
Koufavis déjà documenté 96 cas de femmes actives violées pendant seulement le mois de janvier à février 2011.
Koufavis has already documented 90 cases of rape during just the months of January and February of
2011
alone. During this past year, we have worked with victims ranging in age from 12 months to 60 years old. In addition to the lack of security in the camps, women face rampant discrimination at all stages of the justice system.
Un exemple extrême, c'est politique qui exige un certificat médical avant la justice commencée.
One extreme example is the policy of requiring a medical certificate before the officials even investigate or prosecute a case.
Mais la loi ici n'est pas mettre exigence sur le monde qui est victime.
This requirement is not mandated under Haitian law.
Ça vient faire que les juges ont continué à manipuler l'administration de la justice.
This allows judges to continue to manipulate the administration of justice.
Pour finir, je demande à respect que ma commission visite Haïti et évalue au stade qui rend difficile pour j'en application recommandation notifiée.
To conclude, I respectfully ask the members of the commission to visit Haiti
and evaluate obstacles that make it difficult to effectively implement the recommendations that you have made.
Ostat sa ekli, mandata a koordinasyon ant ajans gouvernement ki konserne.
These challenges include the lack of collaboration and coordination among the government agencies that are concerned.
Ajans la sosin yo ak mam organizasyon fond de baz ayisyen yo, mes.
The UN agencies and the grassroots organizations. Thank you.
Dear distinguished commission members and representatives of the government of Haiti, the commission's decision echoes international human rights jurisprudence and practical strategies for addressing the immediate needs of displaced Haitian women and girls. However, there are two main barriers to implementation of the Commission's recommendations. First is the exclusion of grassroots groups from meaningful participation within the UNGBV subcluster, as Ms. Villard-Apollon has discussed. And secondly, the lack of the government of Haiti's capacity to fund and coordinate needed activities. In response to the Commission's decision, the Haitian Minister of Women's Affairs demanded in a written communication that the subcluster coordinator include participation by grassroots women's groups and to consult the ministry on its activities. However, the coordinator still refuses to do so. This is not only in direct violation of Haiti's state sovereignty, but also violates international law. Calling for meaningful grassroots participation in post-disaster, which is mandated under international law. As further evidence of this, in December, the subcluster released its 2011 strategies for combating gender-based violence in Haiti, with no mention of meaningful participation by grassroots women's groups. In order to fully implement the Commission's recommendations, the government of Haiti needs adequate resources. Yet most of the funding released for Haiti by donor states has gone to international aid agencies, not to Haitian organizations and not to the Haitian government. The Commission's 2009 and 2010 recommendations serve as a blueprint for addressing and preventing sexual violence in Haiti. For this reason, petitioners seek to work with key government and civil society actors to draft a plan of action that would implement the Commission's recommendations, increase government capacity. We hope to present this plan to both the OAS and to donor states at the UN Human Rights Council's review of Haiti in October. Thank you.
Quiero terminar resaltando en vista de la singular situación por la que atraviesa la estructura política del Estado y la crisis humanitaria que vive el país. Es necesario que la Comisión adopte una postura activa que vaya más allá de las medidas de sus posibilidades, en acuerdo con sus atribuciones, como lo ha demostrado en diversas ocasiones en su histórica trayectoria. En ese marco, esta representación considera de vital importancia que esta Comisión pueda realizar una visita in loco y, adicionalmente, que esta visita incorpore la participación coordinada de expertos independientes en las áreas de seguridad, justicia y salud, con énfasis en salud sexual y reproductiva, para que así la Comisión identifique de primera mano los factores de riesgo que enfrentan las peticionarias y en ese sentido puedan nutrir y monitorear desde diversos puntos de vista las acciones futuras. Segundo, dada la magnitud de las violaciones cometidas, solicitamos que esta Comisión inste al Estado y coordine de manera cercana con las agencias de Naciones Unidas el mayor nivel posible de participación por parte de las peticionarias en el proceso de ejecución e implementación de las medidas 340 de 2010. Para ello, solicitamos de manera concreta que se ordene que las próximas reuniones entre las agencias de Naciones Unidas, los agentes del Estado y las peticionarias se realicen en creole, o si no, o por lo menos en francés con traducción del creole y viceversa, con el fin de lograr la participación activa y real de las peticionarias y los grupos locales.
Adicionalmente, de manera concreta, solicitamos que se adopte un cronograma conjunto de trabajo que tenga como prioridad resolver urgentemente la situación de inseguridad por el hacinamiento y la carencia de atención básica en salud, en el cual debe ser presentado a la Comisión en la brevedad posible para que se revisen las garantías de participación y continuidad hacia el futuro. Tercero, dada la gravedad de las barreras de acceso a la justicia, se amerita que se ordene al Estado que establezca rutas concertadas de denuncia e investigación entre los agentes de la policía, el sector justicia y los prestadores públicos y privados de salud, para que actúen, primero, coordinadamente, segundo, no establezcan cargas y trámites desproporcionados, tercero, brinden oportunamente los certificados médicos necesarios, y segundo, y por último, no se revictimicen a las niñas y mujeres en los sistemas de salud y en los sistemas de justicia. Y por último, de manera urgente, se solicita que se lo ordene al Estado, de manera prioritaria, incrementar el número y periodicidad de las patrullas de vigilancia al interior de los campos y se realice en un mediano plazo entrenamiento con perspectiva de género a los agentes de la policía, comisarías y ministerio público. Muchas gracias. Por último, queremos invitar al Estado y a sus representantes a trabajar coordinadamente en un plan futuro de acción en el que las peticionarias y los representantes queremos trabajar para lograr que la restitución y la prevención de las violaciones de los derechos de las mujeres sea una realidad. Muchas gracias.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je crois que c'est la première fois dans une audience que je n'étais pas obligée de montrer les cartes. Je voudrais dire bienvenue aux représentants du gouvernement haïtien qui sont ici. Je suis sûre que les membres de la commission ont des questions, mais avant, je voudrais expliquer la présentation de Bonjour, merci à la Commission d'avoir accepté cette convocation, cette audience pour écouter les femmes haïtiennes qui sont victimes de violences dans les campus. Et merci également de nous permettre de répondre parce que c'est un problème qui nous touche tous, que nous soyons hommes ou femmes, nous sommes concernés, parce que le viol a des répercussions sur la famille, sur la santé des enfants, et nous pensons que tout un chacun va se sentir concerné. Je vais passer la parole au représentant officiel qui vient d'Haïti, c'est le directeur général du ministère à la transition féminine et aux droits des femmes, qui est le plus à même de répondre aux interrogations de la Commission.
Bonjour à vous toutes et à vous tous. Cette audience ce matin est d'une importance capitale parce que la violence faite aux femmes et aux filles, c'est un problème de santé publique, c'est un problème qui concerne tout le monde. Et je voudrais dire avant tout toutes nos excuses pour le retard. Parce que ça ne dépendait pas de nous, ça dépendait du vol qu'on a eu à New York. On est une délégation de pratiquement de 4 personnes, bien entendu de 3 cadres du ministère de la Condition féminine et un cadre du ministère de la Justice. On a une position. Bien entendu, je dois avant tout vous présenter la délégation avant de vous entretenir de notre position. Il y a Madame Yolette Mengua, qui est la chef de cabinet de la ministre. Madame Natacha Clergé, elle est chef du service des droits des femmes. Et Monsieur Antoine André il est consultant au ministère des le directeur général du ministère de la Justice. Et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Et moi, il m'a laissé dans un désir. Et le directeur général m'a été l'une du ministère à la condition féminine aux droits des femmes. La position à nous, c'est. En fait, la position de l'État, c'est Madame Clergé qui va vous entretenir. Donc, je passe immédiatement la parole à Madame Clergé pour la position de l'État haïtien et du ministère de la Condition féminine aux droits des femmes. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, au nom de la ministre de la Condition féminine et de l'ensemble de l'équipe du ministère de la Condition féminine, nous saluons, avec l'État ici en général, nous saluons l'intérêt que manifesté par la Commission interaméricaine des droits humains autour de l'évolution de la situation des droits humains en Haïti après le séisme du 12 janvier. Donc, étant donné que le temps est compté, je vais essayer d'être le plus bref que possible. Alors, je dois commencer par dire que depuis le tremblement de terre, il y a une idée qui est couramment répandue, à sa fois les violences de femmes et aux filles auraient augmenté. Les données dont dispose le ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes, les recherches produites par les organisations de droits humains, par les organisations de femmes, n'indiquent pas une augmentation des violences aux femmes. Par exemple, le Fonds des Nations Unies pour la population, conjointement avec le NUCIDA et le ministère de la Santé publique et de la population, ont réalisé conjointement une étude qui est intitulée Koutou-Koutou-Timon-Poum, qui a été réalisée en octobre 2010, donc quelques mois après le séisme. Selon les conclusions de cette enquête, seulement 1% des femmes qui vivent dans les campements ont déclaré avoir subi des violences. Sur la méthodologie de l'enquête, je vais essayer de vous en parler. C'est une enquête qui a été réalisée sur un échantillon. C'est une enquête qui a été réalisée sur un échantillon de 3581 personnes, dont 2391 femmes et 1190 hommes. Ces personnes vivent dans 12 campements qui sont situés à la fois dans l'aire métropolitaine et en dehors de l'aire métropolitaine. Donc, selon les conclusions, c'est un cas seulement 1% environ des femmes qui ont été interrogées ont déclaré avoir subi de violences. Il est vrai que le pourcentage varie avec l'âge, c'est-à-dire on retrouve une plus forte prévalence chez les jeunes femmes. Par exemple, soit 1,3% chez les femmes qui se situent entre 15 et 19 ans et 1,7% chez les femmes qui ont entre 20 et 24 ans. Et si vous comparez aussi les données collectées au niveau du ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes, au niveau du service de doléances, on n'a pas relevé d'augmentation considérable des violences aux femmes après le séisme. Par exemple, on va essayer de faire une petite comparaison entre le nombre de femmes reçues au ministère pendant les deux années précédant le tremblement de terre et l'année où a eu lieu le tremblement de terre. Par exemple, vous allez voir qu'il n'y a pas d'augmentation. Et je cite de mars 2010 à janvier 2011, le ministère a accueilli et accompagné 1694 femmes victimes de violences. Tandis qu'en 2008, l'institution avait reçu 1980 femmes victimes de violences. Et pour l'année 2008, nous avons reçu au niveau du service de doléances du ministère 1299 femmes victimes de violences. Donc, si vous comparez, il n'y a pas une augmentation accrue comme on pourrait le voir. Les statistiques produites par les organisations de femmes qui interviennent de la prise en charge des femmes victimes de violences depuis environ 20 ans, comme Solidarité des femmes haïtiennes, SOFA ou CALFOM, les statistiques, si vous les comparez, n'indique pas une augmentation des violences faites aux femmes. Par exemple, pour l'année 2010, c'est-à-dire de décembre à janvier 2010, CALFOM a accompagné 1450 femmes victimes de violences. Pour la période d'avant le séisme, par exemple, de janvier à décembre 2010, cette organisation avait reçu 1627 femmes victimes de violences. Et en 2008, Taïfan a reçu 1447 femmes victimes de violences. Donc, c'est une façon pour vous dire qu'il n'y a pas une augmentation accélérée comme on pourrait le penser. D'ailleurs, il convient de faire remarquer aux honorables membres de la CIDH que même si les statistiques produites en matière de violences faites aux femmes suivent une tendance à la hausse, cela ne traduit pas nécessairement une aggravation du phénomène en tant que tel. On peut l'interpréter comme une plus grande sensibilisation, une plus grande conscientisation chez les femmes et les filles. D'ailleurs, dans un article publié sur un journal en ligne qui s'appelle Alter Presse, le 8 mars 2009, les organisations féministes comme Sofa Kaifan l'ont reconnu. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui dénoncent les violences faites aux femmes. Maintenant, le ministère de l'État haïtien est conscient que le séisme du 12 janvier crée les conditions sociales objectives pour une augmentation des violences faites aux femmes. C'est pourquoi, depuis le tremblement de terre, le ministère à la l'État haïtien en général, le ministère à la condition féminine en particulier, a pris un ensemble de mesures visant à protéger, à promouvoir et à protéger les droits des femmes. Je vais vous citer quelques-unes des actions réalisées par le ministère à la condition féminine, conjointement avec d'autres institutions de l'État, comme le ministère de la Santé publique et de la Population, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, la brigade d'intervention des mineurs en vue de prévenir et d'éradiquer les violences faites aux femmes, y compris les femmes qui vivent dans les campements, celles qui vivent aux abords des campements, celles qui vivent en dehors des campements, et aussi les femmes déplacées, parce que après le tremblement de terre, il y a eu beaucoup de femmes déplacées qui ont quitté les villes endommagées pour se réfugier dans les sections communales. L'une des actions majeures réalisées par le ministère à la condition féminine est la campagne de sensibilisation que l'on appelle chez nous PAPEKADECHA, en français ça veut dire éliminer les violences faites aux femmes, notamment les violences sexuelles. Cette campagne a été réalisée en 2010 et, comme je viens de le dire, visait à éliminer et sensibiliser, à prévenir, sensibiliser et éliminer les violences faites aux femmes. Dans le cadre de cette campagne, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a déployé dans les campements 225 brigadiers et brigadières. Quel était le travail de ces brigadiers? C'était d'abord d'accompagner, d'accueillir et de référer les femmes victimes de violences, les accueillir et les référer vers les institutions de prise en charge, vers les institutions de prise en charge spécialisées. Donc l'intervention des brigadiers consistait essentiellement à accueillir et référer vers des institutions spécialisées, ce qu'on peut considérer comme une prise en charge au niveau primaire. Et dans le cadre de cette campagne, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a également ouvert, implanté dans les campements, aux abords des campements, 20 bureaux d'accueil pour accueillir les femmes victimes de violences, ce qui crée ainsi une relation de proximité entre le ministère à la condition féminine et les femmes et les filles qui vivent dans les campements. J'ai oublié de le dire tantôt, la tâche des brigadiers et brigadières consistait aussi à suivre l'évolution de la situation des femmes dans les campements. Et les brigadiers et brigadières, chaque jour, produisaient un rapport qui était acheminé au service à la direction de prise en compte de l'analyse selon le genre, ce qui permettait au ministère à la condition féminine et aux femmes de se faire une idée de l'évolution de la situation des femmes dans les campements. Deuxième action majeure réalisée par le ministère après le séisme en vue de prévenir et d'éliminer les violences faites aux femmes, c'est la mise en place du sous-groupe violence âgée basé sur le genre couramment appelé sub-cluster V-Beach, qui est une structure qui regroupe à la fois des représentants du gouvernement, les représentants et représentantes des organisations nationales et internationales, les mouvements Croix-Rouge, les agences des Nations Unies et autres organisations internationales. Le sous-groupe violence basé sur le genre est coordonné par le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, conjointement avec le exonération du pour la population. La mission du sous-commissaire Vitici, c'est de coordonner les actions en matière de prise en charge des femmes victimes de violence. Et l'élément du sous-commissaire, c'est de permettre non seulement de coordonner, mais une meilleure planification et de permettre aussi de développer une synergie entre les acteurs intervenants en Haïti en matière de violence faites aux femmes. Le sous-groupe Violence basée sur le genre regroupe une cinquantaine d'organisations et il y a des réunions périodiques qui se font tous les mardis, tous les deux mardis de chaque mois au local du ministère à la condition réunie. Et les réunions du sous-cluster se déroulent à la fois en français et en créole pour favoriser la participation des organisations de femmes. Et donc, c'est ça l'autre action majeure organisée par le ministère à la condition féminine, l'implantation dans les commissariats de structures d'accueil pour les femmes victimes de violences, parce qu'on a constaté en Haïti que lorsque les femmes sont victimes de violences, elles se tournent de préférence vers les commissariats. Donc il y a des structures d'accueil qui ont été implantées dans deux commissariats, dont le commissariat de Fort National qui est une bidonville de Port-au-Prince et le commissariat de Delma 33. Delma 33, c'est une commune de Port-au-Prince. Pour l'instant, il s'agit d'une expérience pilote qui va s'étendre dans d'autres départements. Actuellement, je dois vous dire que le ministère est en train d'élaborer le plan national de lutte contre les violences faites aux femmes. On a eu un plan national de lutte contre les violences qui est arrivé à terme en 2011. On a fait une évaluation. Maintenant, on est en train d'élaborer le plan national de lutte dans le cadre du plan national de lutte, de l'application du plan national de lutte contre les violences faites aux femmes. Il est prévu d'installer des structures d'accueil pour les femmes victimes de violences. Oui, victimes de violences dans les commissariats, mais pour l'instant, il s'agit d'une expérience pilote. Deuxièmement, il y a le centre d'hébergement du ministère à la condition féminine. Le centre d'hébergement a été détruit lors du tremblement de terre. On a perdu tous nos matériels, etc. Mais pour l'instant, le ministère, le centre d'hébergement, ça fonctionne à nouveau. Donc, pour accueillir les femmes victimes de violences. Et je dois vous dire qu'il y a des centres, d'autres centres d'hébergement qui ont été implantés dans le nord et dans le sud-est. Ça fait qu'on a trois centres d'hébergement. Donc, on est passé de zéro à trois centres d'hébergement, ce qui constitue, à notre avis, une avancée majeure en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Deuxièmement, le ministère, après le tremblement de terre du 2 janvier, le ministère à la condition féminine, conscient de l'importance de l'institution policière dans la lutte contre les violences faites aux femmes, on a organisé le 6 août 2010 des ateliers de sensibilisation et d'échange avec les agents et les agentes de la PNH. Ainsi, pour favoriser une meilleure prise en charge, des femmes victimes de violences dans les campements. Donc, cette activité a été réalisée conjointement avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, la brigade d'intervention des mineurs. Donc, c'est une façon pour vous dire qu'il y a des interactions, des échanges permanents entre le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes avec l'institution policière pour favoriser une plus grande implication des policiers et policières dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Bien entendu, la police nationale est une institution masculinisée, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais on est en train de travailler pour voir si l'on peut avoir un quota de 30% de femmes et au sein de la police, ce qui va favoriser la féminisation de la PNH et tout qui va, on le pense, entraîner une attention plus systématique de l'institution par rapport aux violences des femmes, parce que les expériences réalisées dans d'autres pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe montrent que lorsque le personnel de la police est féminisé, il y a une plus grande attention par rapport à la question des violences et faites aux femmes. Maintenant, pour ce qui concerne la réceptivité du système judiciaire haïtien par rapport aux violations des droits humains, on doit reconnaître en toute honnêteté qu'il y a des problèmes au niveau du système judiciaire haïtien. Mais cependant, il faut dire que depuis ces 5 dernières années, il y a des efforts qui ont été réalisés pour que, au sein de la justice, pour que le système système judiciaire haïtien soit plus attentif et plus réceptif des cas de violation des droits humains. Par exemple, le rapport, si vous comparez les rapports issus de RNDDHC, national de défense des droits humains, que vous connaissez probablement, vous allez vous rendre compte, vous pouvez vous rendre compte que depuis 2008, il y a plus de condamnations pour violences sexuelles. Par exemple, le rapport produit par RNDDH pour l'année judiciaire 2008-2009, il y a 109 personnes qui ont été jugées pour crimes sexuels et 73% d'entre elles ont été condamnées à des peines allant de 1 an à 15 ans de travaux forcés. C'est-à-dire qu'il y avait plus de condamnations pour crimes sexuels. Et pour l'année 2010, bien qu'il y a eu beaucoup de tribunaux qui ont été détruits dans diverses circonstances et dans diverses juridictions de Port-au-Prince, il y a eu environ 48 individus qui ont été condamnés pour des crimes de viol, d'enlèvement, de séquestration, suivis de viol politique, d'assassinat, suivi de viol. C'est une façon pour vous dire que le système judiciaire haïtien est de plus en plus réceptif. Et je dois signaler à l'attention des honorables membres de la CIDH que ces condamnations ont été prononcées sur la base du décret de loi de 11 août 2005 qui modifie le régime des agressions sexuelles et élimine en la matière certains articles du code pénal haïtien qui étaient discriminatoires contre les femmes. Donc, c'est une façon pour vous dire que le système judiciaire haïtien a été créé en moins de 5 ans, ce décret. C'est une façon pour vous dire qu'il y a des avancées majeures qui sont réalisées. Maintenant, par rapport à l'accessibilité à des soins médicaux, il est vrai que le tremblement de terre tue l'accessibilité des femmes victimes de violences à des soins médicaux. Il est vrai que le tremblement de terre du 12 janvier, selon un document dont dispose Haïti, il y a plus de 50 hôpitaux et centres de santé qui se sont effondrés ou sont quasi inutilisables. Cependant, ce qui peut, on le reconnaît, affecter l'accessibilité des femmes à des services de santé, à des services de santé de qualité. Cependant, pour le département de l'Ouest, on a dénombré 14 institutions qui interviennent dans la prise en charge des femmes victimes de violences. Il y a une cartographie qui a été réalisée, une cartographie des institutions prestataires de soins en matière de violence que le ministère est en train de dresser. Est en train de dresser afin d'évaluer les besoins et de travailler conjointement avec le ministère de la Santé publique pour que les femmes aient accès à des soins de santé de qualité lorsqu'elles sont victimes de violences. Mais pour ce qui concerne le certificat médical, depuis 2005, le certificat médical est délivré gratuitement à toutes les victimes de violences. Il y a un protocole d'entente qui a été signé entre le ministère de la Justice, le ministère de la Santé publique et le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes sur la gratuité du certificat médical. Le certificat médical est délivré gratuitement et dans les 72 heures. Et les femmes victimes de violences ont accès, on pense que progressivement, ça va s'améliorer. Pour les perspectives, il y a un point majeur que je voudrais attirer l'attention, c'est que des honorables membres de la CIDH, c'est que le ministère à la Constitution féminine, conjointement avec la section de droits humains de l'OEA, est actuellement en train d'élaborer la loi cadre sur les violences faites aux femmes. Et nous pensons que c'est une avancée majeure. Le document est déjà prêt. On va organiser, sous l'instigation de la ministre et de la chef de cabinet, des rencontres départementales, des consultations départementales afin de favoriser une appropriation de cette loi à la fois par les acteurs étatiques, mais aussi par les acteurs de la société civile afin de créer une mobilisation autour de cette loi. Je dois signaler aux honorables membres de la CIDH que cette loi prend en considération à la fois les violences psychologiques, les violences verbales et fait révolutionnaire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Dans l'ensemble, c'est ça. Nous sommes à la disposition des honorables membres de la CIDH si vous voulez avoir des informations plus précises. Merci. 15 minutes pour poser des questions.
Je vous avais encore.
Ça, c'est possible. J'ai une question sur quelques informations qui étaient données. Premièrement, sur l'introduction de la photo. Dans le projet de loi, bientôt, est-ce que c'est prévu que ça peut changer pour avoir la possibilité en cas de viol pour la santé de la femme de changer un peu l'introduction absolue qui existe de ma part, je voudrais bien voir ces projets de loi. Ça peut être très très intéressant de voir la
communauté de
quelles sont les modalités de coopération avec les organisations des Nations Unies? C'est sous le contrôle de la gouvernement ou c'est le ONU qui décide la politique d'assistance à la gouvernement haïtien? Et finalement, la situation sur les élections. Est-ce que le nouvel gouvernement a annoncé jusqu'à présent la politique dans cette domaine? Pour la visite qui la question de la demandé, je suis le rapporteur de Haïti sur la commission. Alice Patricia May est le rapporteur pour la commission féminine et les droits des femmes. Je suis prêt à intervenir si ça peut assister le gouvernement de protection des femmes dans ce domaine. Je suis bienvenue à Haïti. Alors, ça, c'est mes questions.
Merci, Présidente. Et voilà, quisiera féliciter à la parte pour la excelente présentation que nous avons hecho, tanto el Estado de Haití como la peticionaria. Creo que nos permite tener una visión bastante amplia de lo que está ocurriendo ahorita en Haití, aunque sabemos que hay muchas voces que quizás en este momento no están representadas. Pero, de alguna manera, la Comisión ha venido haciéndole seguimiento bastante cercano a la situación de las mujeres en Haití antes del terremoto y después del terremoto. Y entendemos que en este momento se nos ha presentado una gama importante de esfuerzos para solventar la situación de las mujeres en Haití, no solo situaciones que se han agravado a partir del terremoto, sino también planteamientos estructurales que han hecho las peticionarias y que también la Comisión ha señalado en diferentes oportunidades a través de sus informes especiales en materia de la situación de las mujeres en Haití. Yo tenía como algunas de las preguntas que ha avanzado la Presidenta con respecto al mecanismo de cooperación entre Naciones Unidas y el gobierno de Haití y otras agencias internacionales de cooperación y cómo se estarían estableciendo de alguna manera dinámicas claras de participación del pueblo haitiano y de las mujeres haitianas y las organizaciones del movimiento social haitiano para que estén representadas allí, si las hay, si no las hay, cuáles son los obstáculos que ustedes encuentran para que no las hubiera. Habría también señalado la peticionaria que quisiera tener mayor información entre la información que nos aporta el Estado y la información que nos aporta la peticionaria. En la peticionaria hay quizás los elementos que nosotros hemos estado manejando y cuidado con las estadísticas que se estarían levantando de acuerdo a la información que maneja la Comisión. Habría un aumento en las violaciones a partir de la situación de posterior al terremoto. Y de acuerdo a la información que nos ha suministrado el Estado, no habría habido mayor aumento. Sin embargo, la información que maneja la Comisión es que hay un importante subregistro en lo que han planteado las peticionarias y otros grupos de personas que han llegado y que nos han hecho llegar información a la Comisión, es que hay muchos obstáculos para que las mujeres puedan hacer subregistro de la violación. Entonces, quisiera saber cuáles son los obstáculos que identifica el Estado y cuáles son las medidas que se estarían tomando. Nosotros hicimos también en las recomendaciones que hizo la medida cautelar la Comisión Interamericana, están establecidas medidas específicas de iluminación en los centros de desplazados en las zonas de edad y queríamos saber si se han tomado medidas específicas. Y por último, por supuesto que son muchos temas que quería escuchar, ¿verdad? Pero también quería saber información específica respecto de medidas de cautelares frente a los casos de violación y salud y VIH, que se estaría tomando medidas contraceptivas después de la violación también. Quería, por último, plantearles tanto a la peticionaria como al Estado que ¿cuáles creen ustedes que sería el mayor aporte que pudiera hacer la Comisión en seguimiento a estas medidas cautelares y también a la visita a la que nos han invitado, que la Comisión ha manifestado su especial interés en realizar? Quisiéramos tener como muy claramente presente cuál es el mejor mecanismo que podríamos utilizar para garantizar los mejores mecanismos de vigencia para los derechos de las mujeres y las minorías. Muchas gracias.
Quiero agradecer la información que han presentado las peticionarias sobre la situación de violencia sexual de las mujeres y niñas en Haití. Y también quiero reconocer la muy importante respuesta que ha dado el Estado sobre el tema. Me parece que son muy importantes las preguntas formuladas tanto por nuestra presidenta, que es la relatora para Haití, como por la comisionada Patricia Mejía, que es la relatora para los derechos de la mujer. Entonces, yo creo que quiero dejar el mayor espacio de tiempo en las respuestas para las inquietudes que ya se han formulado. Yo simplemente voy a hacer una pregunta al Estado, teniendo en cuenta que uno de los objetos de las medidas autoridades otorgadas fue pedirle al Estado mejorar el acceso al sistema de justicia para las mujeres víctimas de la violencia. Quiero preguntar el desarrollo de esa medida cautelar se ha creado dentro de la Administración de Justicia una unidad especializada encargada de investigar y de impulsar los casos frente a las denuncias de violación sexual a las mujeres, porque ese es el mejor mecanismo para fortalecer el sistema, crear una unidad especializada que se dedique a investigar y a sancionar esas conductas.
Thank you very much. I know that we have not left enough time for you to answer these questions. We would welcome supplemental information to be sent in, but we'll give you a few minutes. We are conscious for everyone who is involved in Haiti of the fact that even taking the highest figures proposed in Japan, the situation in Haiti resulted in 10 times the number of deaths, and the catastrophic consequences of that earthquake are still being felt. So we understand the problems of capacity. We would like to assist as fully as we can. I support what Commissioner Mejia said, that directions or suggestions to us as to how we may best contribute would be very, very welcome. So we have about 5 minutes for each side to make key points before we must conclude. So may I ask first the petitioners to be as brief as possible, and then I will ask the state to make some concluding remarks.
Se vier dommage, nous devons ici qui viennent défendre le gouvernement ici de façon ça. I would like to say that it was really unfortunate that we have Haitian women who are present to defend the Haitian government in this manner.
Par rapport avec la violence, côté que nous dit, après tremblement de terre qui va augmenter.
In response to the numbers of rapes that the government is claiming has not increased.
Et pour nous-mêmes, pour faire vivre, pour sans pas parler de 2010, pour le mois de janvier avec deux et le mois de février 2011 seulement, nous recevons par jour de près 2%, c'est-à-dire nous recevons chaque jour 2% de cas de violence sexuelle. Et puis parmi eux, c'est mon 1 an, 2 ans, 3 ans.
For us at Kuhari, just our organization, we have documented a rate of about 2% of cases just in the months of January and February alone. And among these cases, we have children as young as 1, 2, and 3 years old.
Pour 2 mois, janvier, février, nous déjà atteint des 6.
For January and February, we have documented 96 cases.
Et puis l'autre bataille nous apprend aujourd'hui, hein? Cluster fait en créole. En créole. Et comme c'est des pratiques sur créole.
Another thing that we have learned today is that from the government is that the GBV, gender-based violence subcluster meetings are held in Creole.
Et nous vraiment contents parce que c'est une lutte qu'on a menée.
We are very happy because this is a fight that we have been leading for a while.
Mais qu'est-ce que nous avons imposé? Il y a des représentants aussi. Est-ce que c'est un décret qui fait que sorti pour ça?
What we would like to ask the representative if this is a new development that the meetings are actually being held in Creole.
Yes.
Thank you.
Thank you very much for your response.
Pour ce qui concerne la question de la dépénalisation de l'avortement, le projet de loi que nous sommes en train d'élaborer est un copie qui est disponible là que je pourrais vous passer au besoin. Mais comme étant donné, c'est un document qui n'est pas encore public, c'est pourquoi on n'a pas soumis des copies aux honorables membres de la CIDH. La loi sur les violences faites aux femmes ne prend pas en considération la question de la dépénalisation de l'avortement. Cependant, le ministère a déposé depuis 2006 plusieurs projets de loi. Je vais vous citer quelques-unes. La loi sur le travail domestique qui visait, si vous voulez, à résumer la reconnaissance des travailleurs et travailleuses domestiques. La majorité des gens qui font le travail domestique sont les femmes. Cette loi a été votée par les deux chambres et attend d'être promulguée par la présidence. Il y a la loi sur la paternité responsable parce qu'il y a en Haïti ce qu'on appelle couramment l'irresponsabilité paternelle. Cette loi aussi a été députée et attend d'être votée par le Sénat. Et il y a un autre projet de loi, c'est la loi sur la dépénalisation partielle de l'avortement qui fait référence à ce dont vous avez parlé là. Mais il y a des réticences parce que le Sénat est composé essentiellement d'hommes. Donc, ils sont des réticences et aussi il y a l'institution religieuse qui fait obstacle à cette loi. Mais l'administration la nouvelle administration, on l'espère, aura une sensibilité par rapport à la question et va le relancer parce que c'est une question extrêmement complexe. Mais il y a le projet de loi sur la dépénalisation de l'avortement. Maintenant, sur la question des élections. Les élections, on vient d'avoir le second tour des élections. On attend les résultats, c'est prévu. On précise pour le 31 mars. Donc, maintenant, est-ce qu'il y aura une volonté de la nouvelle administration pour promouvoir et protéger les droits des femmes? mais je pense parce que l'État ici a créé le ministère de la condition féminine et aux droits des femmes, qui est l'instance de l'État, qui est chargée d'élaborer et de concevoir et de faire appliquer les politiques publiques en matière d'égalité hommes-femmes et de promotion des droits des femmes. Donc il y a un mécanisme qui existe déjà. Des mesures conservatoires en faveur des femmes et des filles dans les campements. Je dois signaler à l'attention de tout le monde ici que depuis les catastrophes naturelles qui ont frappé Haïti en 2004, qui ont frappé Haïti à répétition en 2004, le ministère à la condition féminine travaille avec les mairies et la direction de protection civile en vue d'appliquer ce que nous appelons chez nous les mesures spéciales. Donc, c'est pas avec le tremblement de terre qu'on a initié les mesures spéciales depuis les catastrophes de 2004. Les catastrophes naturelles en général qui ont frappé Haïti. Et on travaille à la vulgarisation et l'application des mesures spéciales dans les abris provisoires. Pour ce qui concerne les recommandations que la CIDH a fait à Haïti dans une correspondance en novembre dernier, le ministère à la condition féminine s'est chargé d'une part de vulgariser ses correspondances et les mesures spéciales auprès des membres du sous-commandant. Et aussi, on a vulgarisé ces mesures. La ministre a adressé une correspondance au directeur général de la police nationale en vue de l'informer de ces mesures. On a aussi écrit au ministère de la Justice et de la Sécurité publique en vue de vulgariser ces mesures. Mais je dois vous dire que depuis les catastrophes qui ont frappé Haïti en 2004, nous travaillons avec des instances compétentes en vue de l'application et de la vulgarisation des mesures spéciales. Pour des services spécialisés pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Et je dois signaler à votre attention que la loi 4 sur les violences faites aux femmes prévoit la création de tribunaux pour violences faites aux femmes. C'est-à-dire, ce sont des tribunaux spéciaux pour violences faites aux femmes. Donc, il est prévu dans la loi 4 sur les violences faites aux femmes. Je dois vous dire que cette loi 4 va aussi entraîner ce qu'on peut appeler une restructuration de la charpente des institutions. C'est-à-dire que cette loi, pour être appliquée, va nécessiter que certaines institutions soient restructurées. On prévoit la création de tribunaux spéciaux pour violences faites aux femmes dans le cadre de cette loi. Il est prévu d'implanter un tribunal dans chaque commune. Et pour les sections communales, les tribunaux de paix vont toujours se pencher sur la question des violences faites aux femmes. Je ne sais pas s'il y a d'autres membres de la délégation qui veulent apporter des précisions.
Oui, il y a des questions auxquelles je voudrais apporter certaines réponses. D'abord, par rapport aux obstacles, quels sont les obstacles qui empêchent que les femmes dénoncent des cas de viol, des cas de violence en général? Et je peux dire, pour ce qui a trait aux cas de violence sexuelle, ça fait longtemps que les femmes sont sensibilisées par rapport à cette problématique, avec la sensibilisation faite par des organisations de femmes et sensibilisation qui a amené l'État haïtien à prendre le décret loi de juillet 2005 punissant le viol comme crime. À ce moment-là, les femmes n'ont plus peur de porter plainte. Et même au niveau de la police nationale, où il y avait des fois certaines réticences à entendre les femmes porter plainte ou à agir en conséquence, maintenant il y a toute une sensibilisation qui est faite au niveau de la police par le ministère à la condition féminine, avec l'appui de l'UNIFEM qui est aujourd'hui connue femme. Donc au niveau de la police, il y a une certaine sensibilisation, il y a une certaine motivation à écouter les femmes, à prendre leur plainte. Et comme Natacha l'avait dit tout à l'heure, même au niveau du système judiciaire, il y a des avancées qui sont faites. On a eu certaine période de vulgarisation de ce décret-loi au niveau de la justice. Il y a eu des séances, des séminaires de formation qui ont été faites pour les juges de paix, pour les juges qui devraient intervenir par rapport aux plaintes des femmes violées. Donc, c'est pour vous dire que maintenant, il peut toujours avoir des obstacles, mais c'est pas comme avant. Il y a de très grandes avancées qui ont été faites dans ce sens. Autre question, c'est concernant les mécanismes de coopération des organisations des Nations Unies par rapport à leur coopération à Haïti. Donc, ce n'est pas l'État ici qui définit la politique ou l'orientation de cette coopération sur les Nations Unies, mais nous devons dire que l'État ici a de très bonnes collaboration avec le système des Nations Unies, particulièrement le ministère de la condition féminine. Nous travaillons avec l'ONU Femmes, UNFPA, UNICEF, donc dans le cadre de différents projets concernant la promotion de la défense des droits des femmes. Et pour répondre à la question que vous avez soulevée tout à l'heure, la traduction des interventions du sous-glossaire en créole, ça ne dépend pas d'un décret. Ça ne dépend pas d'un décret. Donc, après le rapport qui a été acheminé au ministère à la condition féminine, faisant mention des rencontres qui se font seulement en français et qui ne facilitent pas la tâche aux organisations de base. Donc, le ministère à la condition féminine avait demandé, avant les rencontres se faisaient en créole et en français, mais maintenant on a insisté que les organisations de base qui y participent, qu'elles ont la latitude d'intervenir en créole et on demande aux intervenants de parler et français et créole. Avant les rencontres se faisaient en anglais, directement en anglais par les organisations internationales. C'est quand le ministère a rapatrié le sous-glossaire, quand le ministère a eu le bon leadership avec l'UNFPA, donc les rencontres se faisaient en français pour faciliter les organisations internationales qui ne parlaient que l'anglais. Alors, on disait qu'on devrait, on parlait le français et il y a eu une traduction en anglais. Maintenant, le sous-glossaire se fait en français et en anglais. Et en créole, excusez-moi.
Merci beaucoup à tous les pétitionnaires et représentants du gouvernement haïtien. C'était très informant à nous. Et malheureusement, il faut arrêter parce que nous avons une autre réunion d'audience qui commence en 8 minutes. Alors, il faut que.